prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, le sermon sur la montagne. Deuxième partie, le sel et la lumière.
Continuer, poursuivre notre étude sur le sermon sur la montagne. La fois précédente, nous avions déjà entrepris les béatitudes et nous allons poursuivre. Et nous allons donc faire ou refaire notre lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et parcourir quelques versets qui vont nourrir notre réflexion donc maintenant. Voilà, Matthieu, chapitre 5, verset 1er, je lis. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà pour resituer notre étude. Et la fois donc précédente, nous avions médité sur les cinq premières béatitudes, c'est-à-dire, je les rappelle, hein, ceux qui éprouvent cette misère, hein, donc où Jésus qualifie de pauvres en esprit, et il les interpelle pour leur dire qu'ils sont heureux parce qu'ils vont hériter, ils rentreront dans le royaume des cieux. Nous nous sommes expliqués sur le sujet. Heureux les affligés, ceux qui sont en souffrance quelle qu'elle soit, car ils seront consolés. Dieu est consolateur. Heureux les débonnaires, hein, c'est-à-dire les doux, les humbles qui sont sur la terre, parce qu'ils hériteront finalement là la possession de ce monde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui ont été floués, ceux qui ont été spoliés, parce qu'ils seront naturellement rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils seront et ils obtiendront miséricorde. Alors nous nous sommes arrêtés justement à ce sujet et nous allons poursuivre. Et Jésus nous parle maintenant de ceux qui sont heureux, heureux ceux qui ont le cœur pur. Alors, dans la compréhension de ce que cela signifie, un cœur pur, tout de suite, le dire, cela n'a rien à voir avec la purification rituelle et religieuse des traditions en tout genre, comme nombre de religions l'ont prôné, ou peut-être même voire imposé aux disciples, à leurs enseignés. Jésus nous enseigne que toutes ces choses, donc toutes ces purifications rituelles et religieuses, qu'elles sont inopérantes et illusoires. Elles ne donnent que l'illusion, finalement, d'une purification. Il y a toujours dans l'évangile de Matthieu ce passage qui nous relate la confrontation de Jésus avec les pharisiens. Et ces pharisiens et ces scribes qui sont venus un jour à Jérusalem auprès de Jésus et lui ont posé cette question, une question qui semblait les préoccuper et les inquiéter. Ils diront ceci à Jésus, c'est dans Matthieu 15, au verset 1er jusqu'au verset 9, ils diront « Mais pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas ?» Alors Jésus va leur répondre, il va leur dire « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Alors, Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et Jésus va les traiter d'hypocrites en citant le prophète Ésaïe qui, bien longtemps auparavant, avait donné cette pensée de Dieu en disant « Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et en ce qui concerne la sanctification, la purification, qui quelquefois est au fond des cœurs, il ne s'agit pas d'une tradition puisque Jésus va véritablement battre tout ça en brèche. L'impureté est une des caractéristiques, il faut bien l'avouer, cachées de notre humanité. Cette impureté va des mauvaises pensées en passant par les sentiments jusqu'aux actes les plus déréglés. Le cœur, nous dit la Bible, est l'organe de la vie morale et dans le cœur se cachent la fausseté, la duplicité, la tromperie, la malice. Et le comble, c'est que l'homme trouve cela normal et naturel, prétextant naturellement pour se justifier, bien que tout le monde le fait. Jésus soulève autour de cette question de purification un véritable fléau, c'est-à-dire qui est l'hypocrisie. Être pur de cœur, avant tout, et cela, nous le retrouvons dans toutes les pages de la Bible, être pur de cœur, c'est d'être avant tout droit, c'est être honnête, véridique, transparent et sincère. Alors, comment peut-on y parvenir? La réponse est simple, on y parvient par la foi, dans la grâce de Dieu et par le moyen de la rédemption qui nous a été donnée à travers le sacrifice de Jésus. Nous avons remarqué que Jésus poursuit, il dit « Mais heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que leur récompense, c'est qu'ils verront Dieu. » C'est déjà, naturellement, le découvrir dans la personne de Jésus, ce que nous sommes aujourd'hui à travers la lecture de la Bible, l'inspiration que nous donne l'Écriture sainte, le découvrir dans la personne de Jésus, si nous avons remarqué sa sainteté de vie, l'exemple qu'il nous laisse, mais aussi avoir le cœur pur et de voir Dieu, c'est notre place qui nous est réservée dans l'éternité. Alors à ce moment-là, dans cette dimension-là, qui n'a rien à voir avec finalement notre monde et nos conceptions, c'est que nous le verrons par la beauté suprême de sa perfection, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'ombre. Nous sommes dans un monde qui n'est ni noir ni blanc, mais nous sommes dans un monde qui est gris. Alors, c'est vrai que comment peut-on affirmer ce que c'est que la sainteté, la pureté, tout cela dans un monde où il n'y a que des ombres et des reflets. Ça, c'est la sixième béatitude. Nous allons voir maintenant celle qui suit, où Jésus nous dit et affirme « Heureux ceux qui procurent la paix ». Alors, procurer la paix, c'est certainement quelque chose d'une grande importance dans notre temps, dans notre époque et à travers tous les siècles probablement, ceux qui procurent la paix. D'abord, procurer la paix, c'est d'être d'abord paisible avec soi-même. Nous vivons dans un monde d'agitation, d'angoisse, de troubles, mais quand on l'a trouvé pour soi, cette paix, et qu'on a trouvé surtout celui qui l'incarne, c'est-à-dire que Jésus, puisque la Bible nous dit, l'Évangile nous dit qu'il est le prince de la paix, c'est également s'efforcer de la procurer autour de nous, parce que nous devenons des enfants de paix. Nous avons un Dieu qui est un Dieu de paix, et nous, naturellement, nous devenons des enfants de paix. Il y a une très belle expression, c'est plus qu'une expression, c'est une salutation dans le monde juif, c'est le mot « shalom ». « Shalom », ça veut dire tout simplement « paix ». Alors, cela nous conduit à prendre en considération que tous les diviseurs, les scandaleux, les sectaires sont des fomenteurs de guerre et de conflits qui enlèvent la paix. Alors, on les trouve à tous les niveaux de la société. On peut, hélas, les trouver même au sein de l'Église de Dieu, ce qui est tout à fait inconcevable, mais il faut bien se rendre à l'évidence que ce n'est pas exclu. Alors les hommes de paix seront appelés fils de Dieu. Il est notre Père, un Dieu de paix, nous sommes ses enfants. Et pourquoi seront-ils, ou pourquoi sommes-nous déjà appelés fils de Dieu? Parce que nous avons un trait de ressemblance avec celui qui nous inspire, celui dont la Bible nous dit qu'il est le Dieu de la paix, et qui apporte la paix dans ce monde pour ceux qui veulent bien sûr la recevoir. Et c'est ce Dieu de paix qui répand son esprit de paix, qui donne, qui répond aussi son esprit de réconciliation, et c'est un esprit de bienveillance. Voilà pour cette autre béatitude. Et puis, nous en arrivons à la dernière, où il nous est dit « Heureux serez-vous, vous qui êtes persécutés pour la justice, à cause de moi. » Les persécutions et les conflits entre les hommes, il y en a de nombreux et pour diverses raisons. Mais nous voyons que Jésus nous dit bien « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Ce n'est pas parce que nous avons commis des erreurs ou des choses, des méfaits, mais c'est en raison de notre engagement chrétien. C'est en raison de ce que nous sommes, et bien là, engagés dans la foi, que le monde, que les hommes diront toutes sortes de choses et feront le mal. À cause de moi, précise Jésus. Il est difficile de survivre dans un monde hostile, sachant qu'il y aura toujours incompatibilité entre les principes de ce monde, ces principes qui régissent ce monde, son prince, dont nous connaissons le nom, et qui est menteur et meurtrier, et puis également les principes du royaume de Dieu. Jésus, en guise de conclusion, utilise les mots suivants. « Réjouissez-vous, soyez heureux. » Et cela, ce sont des interpellations qui nous font chaud au cœur, parce qu'il veut nous encourager, il veut encourager les croyants que nous sommes qui souffrent pour la justice et la vérité, alors qu'au lieu de se lamenter parce qu'on dit du mal d'eux, parce qu'on les persécute, parce qu'on fait toutes sortes de choses à leur encontre, Jésus nous dit plutôt, mais considérez, maintenant, considérez désormais comme un bonheur votre engagement à cette cause aussi noble. Parce que finalement, notre force, devant toutes ces choses qui sont difficiles à vivre et à supporter, c'est que notre force, et nous devons nous en imprégner profondément, c'est que notre force sera celle d'aimer. Il n'y a rien d'autre. Souffrir parce que l'on est chrétien et pour quiconque veut vivre en faisant le bien selon les enseignements de Jésus. Faire le bien, le pratiquer quotidiennement, le défendre est plus difficile que de faire le mal. Parce qu'il y a quelque chose qui est naturel, de fait, de notre nature, de notre atavisme, eh bien, c'est que nous avons beaucoup plus propension à faire ce qui n'est pas forcément eh bien, toujours dans les règles, que de faire et de nous appliquer, à aspirer profondément et à mettre en pratique eh bien, ce qui glorifie Dieu, c'est-à-dire l'exercice du bien. Dans Romains chapitre 7 et au verset 18 et puis la suite, il nous est dit, et c'est Paul qui dit cela, parce qu'il en avait fait l'expérience, il avait fait l'expérience de la persécution, des outrages, à cause du nom de Jésus, puisqu'il était un homme de foi, un serviteur, un évangéliste. Et il dira ceci, et c'est certainement son expérience qui le fait écrire, ces mots, « Il y a ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans mon corps, dans ma chair, dans ma nature. » Et il poursuit, il dit « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Il le reconnaissait. Et je pense que son aspiration profonde, c'était justement de faire le bien, mais il explique que ça lui est difficile en raison de ce qu'il est. « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » C'est comme s'il y avait quelque chose qui lui échappait, quelque chose qui était plus fort que lui. « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi, dira-t-il, qui le fait, c'est le péché qui habite en moi. » Voilà, nous voyons que eh bien, la raison, la cause est tout à fait identifiée, surlignée, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est un véritable dilemme. C'est un véritable problème pour l'homme et nous avons besoin, bien évidemment, eh bien, de recourir au secours de Dieu, de pouvoir lui demander l'aide de son esprit parce que sans cela, eh bien, nous restons ce que nous sommes. Ce qui nous fait dire en conclusion de cette dernière béatitude, c'est que prendre position pour le bien, forcément nous suscitera des ennemis. Il y a des gens qui aiment le bien, il y a des gens qui aiment le mal. Il y a des gens qui rejettent le bien. Donc, cela entraînera naturellement derrière nous probablement des maldisants, des malfaisants qui nous injureront, qui nous persécuteront, qui diront faussement toutes sortes de mensonges, car le bien pratiqué dérange toujours. Et si voulons nous y appliquer, nous y donner, c'est vrai de tout notre cœur, eh bien, ce que dans cette voie dans laquelle nous nous engagerons, nous serons confrontés naturellement avec des gens que nous allons déranger, parce que cela dérange toujours la conscience de ceux qui n'en veulent pas. Alors, cette partie des béatitudes qui se termine avant de passer à un autre sujet, Jésus le dit bien, et il le dit à tous, il nous le dit encore aujourd'hui, il dit et il ponctue, et réjouissez-vous et tressaillez de joie. Alors nous avons vu à travers la béatitude que nous avons étudiée, que contrairement au ressenti humain que nous pouvons avoir, et c'est souvent un ressenti douloureux, malheureux, eh bien Jésus nous dit, voilà, en conclusion, et c'est une belle conclusion me semble-t-il, c'est de nous réjouir, d'être dans la joie et de tressaillir de joie. Voilà le programme pour un chrétien qui est conséquent. Maintenant, nous allons passer à l'autre sujet, ce qui fait suite. Il est question du sel et de la lumière, et pour ce faire, eh bien, je continue à lire au chapitre 5 et au verset 13. Voilà ce que j'ai devant les yeux, ce que je partage. Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. » Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous allons commencer par le sel. Matthieu dit bien, vous êtes le sel de la terre. Et il ajoute cette exhortation à conserver finalement les propriétés de ce sel, parce que si le sel perd sa saveur, mais avec quoi peut-on lui rendre finalement ses qualités? Alors il ne sert plus qu'à être jeté, il est foulé aux pieds par les hommes, etc. Précisons d'abord que le sel n'agit qu'à cette triple condition. Premièrement, avoir de la saveur, être mêlé aux aliments et également se dissoudant pour qu'il puisse se rendre tout son effet. La pensée de Christ est que le sel est destiné à pénétrer dans la terre. Vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, dans cette pensée, c'est-à-dire dans le monde pour y communiquer ses vertus. Si Jésus nous compare au sel, eh bien c'est que véritablement nous aussi nous avons pour fonction d'apporter cette saveur, d'être mêlés avec les hommes, et puis aussi de nous dissoudre quelque part pour que, eh bien là, ce sel que nous sommes puisse rendre pleinement son usage. Jésus nous dit « Vous êtes ». Et c'est intéressant de nous arrêter sur ce qu'il affirme, parce que ce qu'il affirme signifie, en d'autres termes, c'est nous les chrétiens. Ce ne sont pas d'autres personnes, ce sont les chrétiens particulièrement, ce qui implique pour chacun d'entre nous la responsabilité et l'obligation morale d'être ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, ses disciples. Et un disciple, c'est celui qui est au pied du maître, qui écoute, qui reçoit, qui est enseigné pour pouvoir ensuite le transmettre aux autres. Dans Luc chapitre 14 et au verset 34, il y a un petit supplément à la pensée. Il nous est dit que le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Imaginons une question vraiment difficile à résoudre. Hein. Est-ce que l'on peut assaisonner du sel avec du sel ou comment faire? C'est un problème insoluble. Donc Jésus attribue au sel la qualité de bon, avons-nous eu, et doit le rester car il est une bonne chose, dans le sens d'utilité nécessaire, et nous allons voir quelques raisons qui nous sont données à travers la parole de Dieu. Le sel de la terre, c'est-à-dire le témoignage chrétien. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes le témoignage de Dieu, du royaume de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ en tant que chrétien sur cette terre. Cela comprend la confession verbale et une attitude conforme à la vie chrétienne. Le chrétien digne de ce nom doit pénétrer discrètement. Ce n'est pas un individu tapageur qui fait du prosélytisme, qui est là pour attirer l'attention sur lui, mais il est bien question de la discrétion, doit pénétrer discrètement le monde environnant et y apporter quelque chose de plus. ce que les hommes ne trouveront nulle part ailleurs, qui fera que la corruption ambiante, au lieu de progresser, reculera, soit par les paroles de ce chrétien et son comportement. Et nous savons que notre mission est avant tout d'être des ambassadeurs. Nous sommes peut-être dans une autre pensée, avant tout les vecteurs de bien, de justice et de vérité. Et si nous pouvons peut-être y apporter un petit clin d'œil, je crois que la raison d'être de l'Église et des chrétiens authentiques, c'est d'y mettre notre grain de sel, hein, d'y apporter naturellement, eh bien, toujours dans la pensée de Jésus, et un grain de sel salutaire. Hein. Souvent, on parle du grain de sel comme une diversion ou des gens qui veulent s'introduire dans une conversation ou dans une affaire pour y apporter le trouble. Mais là, c'est le contraire. C'est tout à fait l'inverse. Je voudrais faire une remarque. Jésus ne nous dit pas que nous sommes le sucre de la terre, parce que, à faire la comparaison, le sucre et le sel ont la même apparence, mais diffèrent totalement, et on les reconnaît l'un et l'autre, tout simplement en les goûtant. L'expérience est là pour nous montrer que nous pouvons avoir devant nous un récipient de sel et un récipient de sucre. S'ils ont été tout simplement raffinés et puis mis dans les conditions, on ne fait peut-être pas la différence, mais c'est en goûtant. Donc c'est avec une analyse gustative, une recherche gustative que nous ferons la différence. Le sel et non le sucre, pour une bonne raison, car notre foi doit engendrer des hommes fermes, des hommes, des chrétiens avant tout loyaux, pleins de consistance et non des chrétiens doucereux, onctueux et mielleux. Nous devons avoir des convictions. Et nos convictions nous donnent d'affirmer, en respectant naturellement, les autres. Il n'est pas question de coller les hommes au mur et puis de leur imposer quoi que ce soit, mais toujours est-il que nous devons avoir ce caractère même de fermeté, comme le sel a des propriétés qui sont facilement reconnaissantes. Donc, un chrétien doit avoir du goût. Le sucre est l'emblème, en quelque sorte, du compromis et de la tiédeur. Et une pensée qui pourrait naturellement surgir, une question, en tous les cas, une interrogation, c'est que nous avons tous remarqué que les mers sont salées et ne sont pas sucrées, parce que peut-être que toute vie, à ce moment-là, se transformait en caramel. Enfin, c'est une petite pensée qui est là tout simplement pour nous amener à comprendre pourquoi les choses ont été faites ainsi par le Créateur. Un évangile sucré, sans consistance, sans interpellation de la conscience, d'éveil du devoir, peut écœurer, comme le miel, comme le sucre, comme les choses qui finalement, nous attirent peut-être dans l'immédiat, mais au bout d'un certain temps vont nous donner la nausée. Et c'est vrai qu'un évangile où il n'y a plus ce caractère même de fermeté qui donne du goût, qui est un véritable stimulant, finit par écœurer. Le livre des Proverbes nous donne, il le dit d'ailleurs au Proverbe 25, il nous dit « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qu'il te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne vomisses. » Donc, pourquoi l'Évangile est-il ainsi? Pourquoi le chrétien est-il ainsi? Pourquoi la prédication du royaume de Dieu est-elle ainsi? C'est parce que, justement, elle doit interpeller. Et si elle n'interpelle plus, alors à ce moment-là, il n'y a plus rien de valable, il n'y a plus de qualité. Et je crois que ça, c'est important de le souligner. Les témoins chrétiens que nous devons être, par la vigueur de notre engagement, doivent créer la soif spirituelle dans les âmes. C'est ce que Jésus veut nous enseigner. Cela être une interpellation de ceux qui nous voient vivre, de ceux qui nous entendent, en disant ils ont quelque chose de plus. Nous aimerions avoir la consistance de ces hommes et de ces femmes. Ils ont la foi. Ils ont non seulement une connaissance de ces promesses de la vie présente, mais également de l'éternité, mais quelque chose qui les stimule. Et dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui surenchérit et qui dit ceci. Il dit, mais en parlant aux chrétiens, il dira, mais conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, et que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. On n'est pas là pour faire rêver les gens, on n'est pas là pour leur dire que l'évangile, c'est un évangile à l'eau de rose, ils ne seront plus malades, ils n'auront plus de problèmes, ils n'auront plus de difficultés, mais c'est un évangile qui interpelle la responsabilité de chacun. Alors, il est il est consistant, il a de la saveur et il donne une véritable raison de vivre, il stimule. Et puis, un autre aspect de ce que Jésus nous enseigne, c'est que eh bien, le sel a aussi une incidence avec notre communion que nous pouvons avoir avec les uns et les autres, mais particulièrement la communion fraternelle. Parce que le sel, eh bien, la communion fraternelle, c'est la chaleur, c'est l'affection. Et le sel combat la fermentation de la critique et de l'amertume, qu'hélas, nous trouvons si souvent dans la nature humaine, et parfois même dans les milieux chrétiens, où, eh bien, sans réflexion et sans cœur, on dit toutes sortes de choses. Alors le sel que nous pouvons avoir partagé entre nous va justement combattre cette fermentation. Dans Éphésiens, au chapitre 4, je cite tout simplement, il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, alors que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous avons besoin dans les milieux chrétiens, dans nos communautés, dans nos relations fraternelles les uns avec les autres, et bien de ce sel. Parce que c'est là où véritablement nous partagerons la chaleur, l'affection, l'amour. Un dernier aspect du sel, c'est dans mes rapports avec Dieu. Mettre du sel dans mes rapports avec Dieu. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 3, il nous est dit ceci au verset 13. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. » Nos offrandes, elles sont constituées de nos prières, de nos louanges, de notre adoration et puis bien d'autres choses. L'offrande de nos prières, c'est-à-dire la ferveur que nous y apportons. Il n'y a rien de plus terrible ou de navrant lorsque les prières sont des récitations, sans cœur, sans enthousiasme, où là, eh bien, nous ne ressentons que la monotonie, quelque chose qui finalement ne nous interpelle absolument pas. Donc, ce sel dans nos offrandes, que ce soit d'une manière ou d'une autre, c'est la ferveur. Et d'ailleurs, la Bible, l'Évangile nous dit bien, soyez fervents d'esprit. La louange inspirée, notre consécration à tout ce que nous faisons doit être imprégnée de sel, et sel, eh bien, c'est tout simplement du zèle. Autre aspect également, puisque Jésus le suggère, quand le sel perd sa saveur, nous remarquons que, au regard, le sel ne perd pas sa couleur, mais son pouvoir gustatif et son efficacité. Un chrétien peut garder toutes les apparences, mais pour une raison de dissolution morale ou spirituelle, n'être plus bon à rien. Il a peut-être l'illusion d'être chrétien, l'illusion de servir, parce qu'il y a encore des formes extérieures, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Alors, nous pouvons comprendre que, eh bien, si l'individu est tel, tout en se réclamant du christianisme, mais pour des raisons finalement de dissolution, comme je l'ai dit, perdre sa puissance vivifiante et communicative de vie. Parce qu'avant tout, nous sommes des communicateurs. Communicateurs de foi, communicateurs de joie, communicateurs de paix, communicateurs, eh bien là, de vie tout simplement. Un indice de cette perte de goût n'est autre que la preuve d'un changement de nature. Le sel qui perd sa saveur, c'est un changement de nature. Parce que sa nature, c'est justement de donner du goût et de la saveur. Un chrétien qui perd, finalement, eh bien, ce qu'il est, c'est parce qu'il a changé de nature. Auparavant, il était une nature perdue, pécheresse. Dieu l'a appelé, l'a transformé. Et il n'y a rien de plus catastrophique que de voir quelqu'un qui, après être sorti de l'ornière, après avoir eu la connaissance de Dieu, avoir été rempli de l'Esprit de Dieu et de sa parole, de la vie de Christ, retourne à sa première condition. Donc c'est un changement de nature. Une fois, deux fois et une troisième fois. C'est quelque chose de terrible. Dont le constat est le remède interroge. Comme Jésus le suggère, avec qui ou de quelle manière rendra-t-on la saveur au sel qui est dénaturé? Comment peut-on rendre de la saveur, de la ferveur, du zèle, de l'amour, de la foi, de la confiance à un chrétien finalement, qui a perdu, eh bien, cette nature divine que Dieu lui a donnée. Un sel affadi, quelqu'un l'a dit, c'est un dicton, un sel affadi, c'est une table sans sel, et une table sans sel, c'est une bouche sans salive. Ça vaut ce que ça vaut, mais une chose qui est certaine, c'est qu'on comprend bien ce que ça veut dire. Et puis, un autre point également, avant la conclusion, le sel est l'humilité, la modestie. Ce qui frappe les regards sur une table, et je pose la question à chacun, est-ce la soupière ou la salière? Cette dernière, entendez par là la salière, est discrète, mais elle est efficace. Elle est là sur la table. Le sel n'est jamais affiché au menu d'un restaurant. Il n'y a pas naturellement l'énoncé de tous les plats. Et puis en bas, il y a marqué « sel à volonté ». Hein, c'est jamais marqué. Mais une chose, toutefois, son absence est vite remarquée et ce sel fait défaut dans l'alimentation. Et s'il fait défaut, eh bien, on va vite demander qu'on nous apporte le sel pour pouvoir rehausser, hein, hausser le goût de ce que nous mangeons. La conclusion. Le sel, c'est porter notre foi autour de nous. Jésus nous le dit. En d'autres termes, c'est rayonner. Un chrétien doit être un diffuseur, il doit pouvoir rayonner de cette vie nouvelle. Alors, ce qui implique, c'est que nous ne devons pas faire parler de nous, mais plutôt, parlons et vivons de Jésus. Et là, nous sommes le sel. Parlons et vivons de Jésus. Pour donner du goût, soif à ceux et à celles dont la vie est fade, insipide et sans saveur. Nous vivons dans un monde où ceux et celles qui nous entourent présentent très souvent une apparence de bonheur, une apparence de joie, une apparence de liberté, une apparence de vie. Mais lorsque l'on va un peu plus loin, plus en avant, peut-être plus profond, eh bien on s'aperçoit qu'il y a souvent de grands abîmes, de grands déserts, une grande tristesse. Et je crois que le chrétien a pour vocation, par l'évangile qu'il vit, dont il parle, hein, qu'il est supposé transmettre, eh bien c'est justement, c'est d'apporter là où il y a de la fadeur, là où il y a de l'insipidité, et où il n'y a plus de goût de vivre, goût d'espérer, goût d'attendre quelque chose de nouveau, goût de la liberté, eh bien c'est ça le but. C'est pourquoi Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Et puis, pour conclure, une fois dernière, le sel de l'Évangile, c'est la croix. Ouais. On peut toujours parler de l'Évangile, on peut toujours parler de ces récits magnifiques et merveilleux, mais une chose qui est certaine, c'est que si nous y enlevons la croix, ça ne sert plus à rien. Je rappelle, le sel de l'Évangile, c'est la croix. Et un chrétien ne peut avoir un caractère amoral. Je ne dis pas immoral, je dis amoral, c'est-à-dire sans morale. De dire « je suis chrétien, mais finalement, moi pour moi, le bien et le mal, ça n'existe pas. Je suis chrétien, mais la vérité ou l'erreur, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Je suis chrétien, mais le pur ou l'impur, la fausseté ou la vérité, tout ça, ça m'est bien égal. » Donc, un chrétien, je le rappelle, ne peut être un être avec un caractère amoral, tout autant que le sel ne peut perdre sa saveur. Et si tel était le cas pour le sel, et surtout pour le chrétien, serait-il encore chrétien? C'est ce que Jésus veut nous dire. Nous allons maintenant passer à cette dernière méditation, très brève, c'est la lumière. Alors, la lumière, nous l'avons lu, vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Il est impensable qu'on allume une lampe pour la cacher. Lorsque nous regardons autour de nous, dans nos maisons et partout ailleurs, les systèmes d'éclairage sont mis en évidence. Hein, on ne met pas une lampe, on ne met pas un éclairage dans un endroit où on va le renfermer dans un placard ou pas. C'est évident. Donc, Jésus nous le laisse supposer, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, c'est-à-dire la couvrir. Bien au contraire, la lumière est faite pour éclairer aux alentours, tout alentour. Et c'est le but. Les propriétés de la lumière, c'est d'abord de révéler, c'est de rassurer. Puisque nous ne sommes pas dans le noir, dans l'obscurité, mais nous sommes dans la clarté. C'est de nous guider aussi, la lumière. Elle sert à réjouir elle sert à faire vivre. Un chrétien ou le chrétien est une lumière indirecte qui reflète sa vraie source. Et la vraie source d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, c'est Dieu et Jésus-Christ. Nous ne sommes pas la lumière. Jésus nous dit pourtant, vous êtes la lumière. Mais nous ne sommes qu'une lumière par réfraction, tout simplement. Si le sel lutte contre la corruption, tout autant la lumière lutte contre les ténèbres, contre l'obscurantisme, contre l'ignorance, contre bien des choses de ce genre. La mission d'un chrétien qui ne brille pas n'a plus sa raison d'être. À quoi servirait-il ? Dans Philippiens, au chapitre 2, au verset 15 et la suite, il est dit « briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie ». Le disciple est lumière autant par ses paroles que par ses actes, c'est-à-dire ce que je dis et ce que je suis. Et par mes actes, je dois pouvoir interpeller ceux qui me voient vivre en disant « mais cet homme n'est pas un homme ténébreux, cet homme ne marche pas dans l'ombre, il ne marche pas caché, il ne marche pas dans l'obscurité ». Parce que finalement, les paroles et les actes, ce sont deux choses qui sont nécessaires quand les paroles et les actions s'accordent. Ce que nous sommes importe plus que toutes les apparences. Et c'est une vérité. Dans un monde enténébré, Dieu nous a confié la tâche d'être les miroirs. Encore une autre image. Reflétant les vertus de celui qui est la lumière parfaite. Nous, nous sommes devant ce miroir resplendissant de la gloire et de la puissance de Dieu. De la divinité de Dieu en Jésus-Christ. Mais nous devons pouvoir le refléter. Dans Pierre, il est dit ceci, une belle parole. Chapitre 1er, verset 2 à 9, il est dit « Afin que vous annonciez, que vous proclamiez, que vous portiez autour de vous, afin que vous annonciez donc les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Si nous sommes passés des ténèbres, s'il nous a sortis de l'ombre pour nous mettre en pleine lumière, c'est que nous-mêmes, maintenant devenus lumière, par sa grâce, par sa vertu, nous devons éclairer les autres à son admirable lumière. À mesure que Christ devient lumière en nous, plus nous le laissons prendre le pas sur notre vie, sur notre volonté, sur nos désirs, d'une façon ou d'une autre, plus il devient grand en nous, plus Christ devient lumière en nous, nous devenons à notre tour lumineux, c'est logique, de sa divine personne. Dans Éphésiens chapitre 5, 8, autrefois, c'est un rappel, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Sel et lumière font des chrétiens conséquents, des citoyens du royaume de Dieu. Ça, c'est le sermon sur la montagne. Leur témoignage et leur responsabilité morale doivent laisser un impact par le fait de leur différence, et c'est ainsi la manière de glorifier leur Père céleste. Notre Dieu qui est dans le ciel attend que notre témoignage et notre responsabilité laissent des marques, comme le sel, comme la lumière, et que nous montrions la différence. Que nous puissions peut-être être comme les premiers disciples, comme cela nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres. Il nous est dit, voilà ces hommes qui ont révolutionné la terre entière parce qu'ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Notre communion et notre vie avec Jésus. Je voudrais simplement donner une note supplémentaire afin de clore cette partie. Une note supplémentaire, un monde sans sel et sans lumière donne ceci au regard de notre société, au regard de notre monde. Ce qui pourrait se décliner de cette manière, c'est que la richesse sans le travail, c'est de la vanité. Que le plaisir sans la conscience, c'est de la dépravation. Que la connaissance sans l'humilité, c'est de l'orgueil. Que le commerce ou les affaires sans la moralité, c'est le dérèglement. La science, sans l'humanité, c'est une machine impersonnelle. C'est que la foi, sans le sacrifice, c'est de l'hypocrisie. Que la politique, sans les principes, c'est une imposture qui peut devenir une dictature. Donc la nourriture sans le sel, c'est comme la vie sans Dieu. Le jour sans la lumière, c'est la foi sans amour. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse à travers cette réflexion et que cela puisse nous faire grandir, de plus en plus, dans cet amour de sa parole et de vouloir véritablement être comme il est, de pouvoir posséder son caractère et ses sentiments pour que nous puissions être à la fois le sel et la lumière, le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà, merci beaucoup.